Coutume de royaume n'est pas coutume de fief, ma mère. Et vous garderez mieux votre comté avec votre beau-fils régent ou peut-être roi qu'avec argument de légiste. » Mao s'inclina sans être convaincu. « Voilà bien la gratitude des gendres, » dit-elle un peu plus tard à Béatrice d'Hirson. « On leur empoisonne un roi pour leur laisser la place et aussitôt ils n'en font qu'à leur guise, sans tenir compte de rien. »
« C'est que, madame, il ne sait justement point ce qu'il vous doit, ni comment notre sire Louis est parti. »«
Et il ne faut pas qu'il le sache, seigneur !» s'écria Mao. « C'était son frère, après tout, et mon Philippe a de curieux mouvements de justice. Tiens ta langue de grâce, tiens ta langue !»
Durant ces mêmes journées, Charles de Valois, aidé de Charles de Lamarche et de Robert d'Artois, s'agitait fort, disant partout et faisant dire que c'était démence de confirmer le comte de Poitiers dans la régence, et plus encore de le désigner comme héritier présomptif. Philippe et sa belle-mère avaient trop d'ennemis, et la disparition de Louis X servait trop bien leurs intentions, maintenant avouées, pour que cette mort suspecte ne fût pas leur œuvre. Valois, lui, offrait d'autres garanties. Allié de toujours du roi de Naples, nul mieux que lui n'était à même de résoudre les problèmes regardant Clémence et la maison d'Anjou. Ayant servi la papauté romaine, il avait conservé la confiance des cardinaux italiens, sans lesquels, on le voyait bien, un pape ne se pouvait élire. Et cela en dépit même des mauvais procédés qui consistaient à murer le conclave dans une église. Les anciens templiers se rappelaient que Valois n'avait jamais approuvé la suppression de leur ordre. Les flamands ne cachaient pas qu'ils aimeraient négocier avec lui. Quand Philippe eut connaissance de cette campagne, il chargea ses familiers de répondre qu'il était bien étonnant en vérité de voir l'oncle du roi s'appuyer pour réclamer le pouvoir sur les cours étrangères ou sur les adversaires du royaume, et que si l'on pouvait voir le pape à Rome, la France aux mains des Angevins, le temple ressuscité et les flamands tout à fait émancipés, il fallait sans tarder offrir la régence au comte de Valois. Enfin arriva le décisif vendredi où devait se tenir l'assemblée. À l'aurore, Béatrice d'Hirson se présenta au palais et fut immédiatement introduite dans la chambre du comte de Poitiers. La demoiselle de Parage était un peu essoufflée d'avoir couru depuis la rue Mauconseil. Philippe se dressa sur ses oreillers.
« Mal ? » demanda-t-il.
« Mal, monseigneur. » « Et fort bien membré, » répondit Béatrice en jouant les cils. Philippe se vêtit à la hâte et se précipita à l'hôtel d'Artois.
« Les portes ! Les portes ! Que les portes restent closes !» dit-il dès qu'il fut entré. « A-t-on bien veillé à mes ordres ? Personne, hormis Béatrice, n'est-il sorti ? Qu'il en soit ainsi pour tout le jour !»
Puis il s'élança dans l'escalier. Il avait perdu cette raideur et cette componction auxquelles d'ordinaire il se forçait un peu. La chambre de Gésine, ainsi qu'il était d'usage dans les familles princières, avait été somptueusement décorée. De hautes tapisseries d'Arras aux vives couleurs recouvraient entièrement les murs, et le sol était jonché de fleurs, iris, roses et marguerites que l'on écrasait en marchant. La couchée, pâle, les yeux brillants et le visage encore défait, reposait dans un grand lit entouré de courtines de soie, sous des draps blancs qui traînaient à terre de la longueur d'une aune. Dans les angles de la pièce se trouvaient deux couchettes, également pourvues de rideaux de soie, et destinée l'une à la ventrière assermentée et l'autre à la berceresse de garde. Philippe se dirigea droit vers le berceau d'apparat et se pencha fort bas pour voir ce fils qui venait de lui naître. Affreux et pourtant attendrissant, comme tout enfant dans ses premières heures, rougeau, ridé, les yeux collés et la lèvre baveuse, avec une infime mèche de cheveux blonds pointant sur son crâne chauve, le bébé dormait, emmailloté jusqu'aux épaules dans des bandelettes croisées étroitement serrées.
« Ainsi le voilà donc, mon petit Louis-Philippe, que je souhaitais tant et qui arrive à point si bien nommé. »
Seulement alors, le comte de Poitiers s'approcha de sa femme, la baisa aux joues et lui dit d'un ton de profonde gratitude
« Grand merci, mamie, grand merci. Vous me donnez belle joie, et ceci efface à jamais de ma pensée nos 10 sentiments de jadis. »